Le journal Jacques Matin d'IMB.
Le sommaire du journal, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, est attendu à Goma, province du Nord Kivu. Dans ce journal, nous aurons les détails avec Jean-Paul Bastila sur place à l'aéroport. Et puis en ce moment, il se tient une marche à Kinshasa. Plusieurs personnes convergent vers Bongolo, scandant des slogans en rapport avec la fin de la transition pour ce 30 juin. Et puis la République démocratique du Congo doit rattraper son retard dans la transformation de ses minerais. C'est l'objectif du forum pour la RDC qui a pris fin à Lubumbashi dans la province du Katanga. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État est attendu aujourd'hui à Goma. Sur place à Goma, on observe une mobilisation des habitants de Goma aux alentours de l'aéroport. Sur place, nous allons joindre notre correspondant Jean-Paul Bastila.
Depuis tôt ce matin, toutes les artères de la ville de Goma sont occupées par les soldats de la garde rapprochée du président Joseph Kabila. Même décor au niveau de la bande frontalière avec le Rwanda, où le même soldat procède à une fouille systématique sur toute personne en provenance de la ville rwandaise de Gisenyi voulant traverser. Boutiques, magasins et même le marché sont fermés. À l'aéroport, une foule pose en attente, scandant des chansons et retenue à l'extérieur de l'enclos. Le programme du séjour de Joseph Kabila à Goma prévoit une adresse à la population suivie d'une visite à l'hôpital général de référence de Goma. Pour le moment, aucune précision n'est donnée sur l'heure exacte de son arrivée. Goma, Jean-Paul Bastila, Radio Okapi.
Et puis en bref, avant de s'envoler pour la province du Nord Kivu, le chef de l'État était hier à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Il a rencontré différentes personnalités, entre autres l'évêque du diocèse d'Uvira, la société civile, la MONUC et le gouverneur de la province du Sud Kivu. Et nous vous l'annoncions en titre, une marche est observée en ce moment même à Kinshasa. Plusieurs personnes convergent vers Bongolo, scandant des slogans en rapport avec la fin de la transition pour ce 30 juin. Notre reporter René Capita est sur place. Et il intervient en direct, on l'écoute.
Écoutez Jacques, ce sont plusieurs centaines de personnes en provenance de 12e rue Limité, munies des rameaux, des banderoles, des drapeaux de l'UDPS, mais aussi un portrait géant des Chaînes Tshisekedi, président de ce parti, qui chantent et dansent en fêtant la fin de la transition pour ce 30 juin. Ces personnes disent qu'à cette date, toutes les institutions de la transition doivent tomber. Actuellement, ces personnes sont en train de se diriger vers le stade où est prévu le point de chute de la manifestation. Un autre groupe de personnes en provenance de Bandalungwa va d'ici là atteindre la place Victoire. Il faut en outre noter la présence d'un dispositif policier déployé pour l'encadrement de la manifestation. Pour l'instant, aucun incident n'est signalé. Tout se déroule normalement. Depuis la place Victoire, René Capita pour la Radio Okapi.
Le président gabonais Omar Bongo Ondimba a reçu hier mardi à Libreville plusieurs candidats à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo qui ont réclamé les concertations prévues avant le scrutin, selon un communiqué officiel publié ce mercredi. Selon l'agence France Presse, le président Bongo a notamment reçu les vice-présidents et ex-chefs rebelles Jean-Pierre Bemba et Azarias Robero, ainsi que Gérard Kamanda Wakamanda, Joseph Olengan Koy, Pierre Anatole Matusila, Alou Bonioma, Kalokola, Maman Zouzi Wambombo et Hassan Tassinda Obatassinda, tous candidats au présidentiel. Aussi le président de la Conférence épiscopale nationale de la RDC, Monseigneur Laurent Mosengo et quelques personnalités politiques congolaises ont été reçus. Selon la même source, les interlocuteurs du président gabonais lui ont fait part de leurs préoccupations sur le bon déroulement du processus électoral et ont mis en avant la nécessité d'une large concertation avant le 30 juin. Nous nous rendons présentement à Kisangani où il y a eu des accrochages ce matin à Isiro dans la province orientale entre une dizaine de démobilisés et la police nationale. Bilan, 2 blessés, 1 démobilisé et 1 policier. Selon le commissaire du district du Haut-Ouélé, le malentendu entre la CONADER et les démobilisés serait dû au paiement de leur filet de sécurité. Aliana Ali Panagama.
Pendant que les habitants d'Isiro étaient en plein travaux de nettoyage de la ville, comme cela se fait chaque mercredi de la semaine, des coups de feu ont été entendus. La population n'en connaissait pas l'origine. Cela a provoqué une panique généralisée au centre-ville d'Isiro. Témoignage d'une habitante.
Nous avons entendu brusquement des coups de feu. J'étais quelque part dans la rue et j'ai commencé à courir. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu derrière moi des démobilisés jeter des pierres. Ils ont ravi deux armes entre les mains des policiers. C'est ce que nous avons vécu. Nous étions tous debout en train d'observer.
À l'origine de cet incident, selon les commissaires des districts du Haut-Ouélé, des démobilisés furieux de ne pas avoir été payés et qui ont séquestré le responsable de la CONADER. L'intervention de la police pour ramener l'ordre a tourné au vinaigre et c'était l'accrochage. Freddy Bosomba, commissaire de district, donne le bilan de cet accrochage.
Un policier a tiré sur un démobilisé qui se trouve actuellement aux cliniques universitaires. On va l'amputer. Ce policier-là à qui on a ravi l'arme, bon, il y a eu d'abord une petite bagarre avant et quand on lui a poignardé au niveau du montant, c'est ainsi qu'on a réussi à lui ravir son arme. Et je l'ai envoyé à l'hôpital, il est à la clinique de l'Ouélé.
Selon l'auditeur militaire, le calme est revenu dans la ville 2 heures après. Deux démobilisés soupçonnés d'avoir provoqué les troubles sont aux arrêts et deux armes ont été saisies. Aliane Ali Panagama, Radio Okapi, Kisangani.
En bref, un journaliste allemand a été blessé par balle cette nuit par des hommes armés dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Le journaliste Roland Brockmann travaille pour le journal Daily Welt. Cette agression s'est déroulée au domicile d'un journaliste de Radio Okapi qui hébergeait son collègue allemand. Le journaliste de Radio Okapi a été tabassé et volé pendant l'agression. Selon les informations en notre possession et en attendant les résultats de l'enquête, cette agression n'a rien à voir avec la qualité de journaliste des victimes. Nous nous rendons dans la province du Maniema. Lambert Konga Kanapé rejoint le centre de démobilisation de Katako. Nous sommes là à Kindu. Le chef Mai Mai de 36 ans et inspirateur de ce mouvement armé dans le Maniema vient de décider de rentrer à la vie civile ce mercredi. Il a reçu son certificat de désarmement des mains du général Alengbia Zambé, commandant de la 7e région militaire, puis s'est rendu directement au centre de démobilisation de Katako à 7 km de Kindu. Il donne les raisons de sa démobilisation au micro de Sadala Chabani.
Je suis content de votre contribution, vous tous, de m'avoir accordé cette occasion historique dans ma vie de participer à cette cérémonie de ma démobilisation. Ce que j'avais fait ici au Maniema, initier la population de se défendre, c'est parce que il y avait l'absence du gouvernement ici au Maniema, il y avait l'absence d'un autre ami ici au Maniema, il y avait même l'absence de la Monique ici au Maniema. J'ai jugé bon de donner le temps aux responsables de ce pays, avec toutes les organisations autorisées, de faire leur travail à l'endroit de la population qui les concerne, pour que moi aussi je sois parmi cette population qui doivent obéir aux ordres, aux lois du pays.
Province du Sud Kivu, où on observe une cohabitation pacifique entre les militaires de la 8e brigade intégrée et la population des villages aux environs du camp. Voilà, il y a cela 10 jours que la 8e brigade intégrée est arrivée à Kavumu en provenance du Nord Kivu. Cette nouvelle brigade intégrée vit dans le camp de transit de Nyamunyuni en attendant d'être déployée sur son lieu d'affectation. Pendant ce temps, certains militaires sont même logés dans des maisons des particuliers. Jean Kassami pour le reportage.
Il y a une semaine, ces militaires de la 8e brigade intégrée étaient plus de 2000 à vivre dans les camps de Nyamunyuni. À ce nombre s'ajoutent leurs dépendants. Après l'apparition de quelques cas de choléra, le commandant de la 8e brigade, le lieutenant-colonel Taylor Sikou, a décidé de désengorger les camps. Une partie des troupes a été envoyée à Amsar et les autres occupent des maisons dans les villages environnants comme Kachoucha et Bushumba. Certains habitants sont contents parce que la présence des militaires dans leur quartier contribue à la baisse des incursions des combattants autour rwandais. Témoignage de cet habitant du village qui avoisine le camp de Nyamunyuni.
Depuis qu'ils sont arrivés, moi je dirais qu'il n'y a pas de problème. Nous vivons avec eux comme des frères. Quand ils ont un besoin quelconque, ils demandent si c'est la banane, on les donne, soit une mesure de haricots, on les donne sans difficulté. Les maisons qu'ils occupent, on les donne ça gratuitement, sans aucune condition quelconque. Et là-bas, ils restent là-bas sans problème, avec leurs femmes et leurs enfants.
En revanche, certains habitants sont prudents avec la présence des militaires dans leur milieu. Ils soutiennent que cela freine la liberté des mouvements des populations pendant la nuit. De Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Province du Kasaï occidental, une dispute autour des ustensiles de cuisine finit de manière tragique au sein d'une famille. Trois membres d'une même famille tranchent le cou de leur frère après l'avoir battu et dévisagé avec le pilon. La scène s'est déroulée à Kajiba, une localité du territoire de Dimbelenge, à 75 km de Kananga. Les rappels des faits avec André Kambala.
L'incident a eu lieu depuis quelques jours. Faute de moyens de communication adéquats, c'est seulement ce matin que l'information est parvenue à Kananga, chef-lieu de la province. Selon Ali Moukala, le beau-frère de la victime Kalamba, tout est parti d'une dispute familiale dont la cause était l'usage abusif de ses ustensiles de cuisine. Les trois frères n'ont pas apprécié que le frère Benjamin leur fasse la remontrance pour une chose banale comme les ustensiles de ménage. Le temps de la dispute, les trois frères, armés de pilons, se ruent sur leur victime, la maîtrisent et commencent à la séner de coups sur le visage. L'œil crevé, Kalamba s'effondre. Pour l'achever, ce bourreau le plante un coup de poignard tranchant ainsi son cou. Ce dernier coup, d'après les témoins, a totalement achevé la victime. Prise de panique générale, la population de Kajiba a d'abord déserté le village, craignant des éventuelles représailles de la police. Cette dernière est arrivée quelques temps après et a mis sous le verrou les assaillants. Des dernières informations obtenues par Radio Capi ce matin indiquent que la situation redevient calme. La population petit à petit regagne le village. Kananga, André Kambala, Radio Capi.
Clôture du forum des industries minières pour la RDC à Lubumbashi, province du Katanga. La RD Congo, la Zambie et la Namibie ont étudié comment donner plus de valeur aux produits miniers exploités dans ces trois pays. Au cours de ce forum, les participants issus de ces trois pays ont échangé des informations à même d'aider la RD Congo à rattraper son retard observé dans la transformation de ces minéraux. On écoute Joseph Ikoli Yombo, secrétaire permanent du forum pour la RDC. Il est au micro de Paul Kaboba.
L'objectif d'abord du forum, c'est la promotion des activités de partenariat, de joint venture, l'accès aux informations du marché international sur le cuivre et promouvoir aussi également l'industrie de valeur ajoutée. Vous savez que les richesses chez nous, c'est plus l'exportation des produits bruts. Le forum vise à ce que on puisse implanter des industries pour la valeur ajoutée dans nos trois pays respectifs. Et cela va donner des recettes plus substantielles à l'économie respective de nos trois pays.
La Zambie et peut-être la Namibie ont déjà ces industries, mais le Congo est en retard.
Le Congo, c'est vrai, est en retard par rapport aux capacités des autres, mais néanmoins, nous comptons de petites fonderies qui sont en train d'être implantées et de grandes fonderies. La RDC fournit un effort et avec l'attraction du code minier, qui est vraiment attractif et sécurisant pour les investisseurs étrangers. Nous pensons que d'ici là, le pays sera doté de grandes raffineries de traitement de cuivre.
Bouclons cette édition dans la province de l'Équateur, à Gemena, district du Sud Ubangi. Les parents d'élèves ne savent que faire pour répondre aux exigences des enseignants. En pleine période des examens, les élèves sont chassés de l'école pour non-paiement des frais scolaires, auxquels les enseignants ajoutent le paiement anticipatif de leur prime du mois de juillet prochain. La plupart des parents démunis implore la patience des enseignants. D'autres qualifient ces comportements de pure et simple tracasserie. Paul Richard Malengela.
Le phénomène est commun à toutes les écoles de Gemena, notamment au collège Elitia, à l'Ex-Athénée, à l'école d'application, à l'Institut technique commercial Salongo et à d'autres écoles de la place. Plusieurs élèves n'ont pas accès aux épreuves de fin d'année, faute de n'avoir pas payé la totalité des frais, particulièrement les droits d'examen, plus ou moins 100 francs congolais, et la contribution des parents, avec le paiement anticipatif pour le mois de juillet. Ce qui révolte beaucoup de parents d'élèves encore impayés, certains qualifient cette pratique de pure tracasserie enseignante. Ils souhaitent que les écoles confisquent les résultats jusqu'au paiement de ces frais, plutôt que de chasser les enfants des examens qui ne répondront peut-être plus. Mais les chefs d'établissement campent sur leur position. Ils accusent les élèves et les parents de mauvaise foi, car, disent-ils, après les examens, les parents n'auront plus envie de payer ces frais. Interrogé sur la pratique, le chef de division provinciale de l'EPST Équateur 2 réprouve la décision des chefs d'établissement. M. Sandoukou compte réunir tous ses collaborateurs pour un compromis mercredi prochain afin que la clôture de l'année scolaire, prévue le 20 juillet 2006, intervienne en douceur dans sa juridiction. Et maintenant, pour le Charme Alindela, Radio Okapi.